se parler.
Alors, qu'est-ce que vous voudriez qu'on travaille aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'on travaille d'abord au sol, d'abord debout, d'abord en mouvement?
J'aimerais mieux coucher pour commencer.
Priorité santé.
Les personnes qui viennent me voir, ce qu'elles ont en commun, c'est la certitude qu'il y a mieux à faire pour leur corps.
Claire et bon.
Bonjour à tous. De nombreuses pratiques thérapeutiques ne sont pas reconnues par la médecine officielle. Pour la sécurité des patients, une information et une réglementation transparente sont nécessaires. Plusieurs de ces pratiques ont récemment fait l'objet de décrets ou de projets législatifs. Nous examinons aujourd'hui le cas de trois d'entre elles, l'acupuncture, l'ostéopathie et la psychothérapie. Je vous propose donc de faire le point avec Mireille Bousquella, qui est psychologue, présidente du syndicat des psychologues en exercice libéral, le docteur Denis Collin, qui est secrétaire général du Collège français d'acupuncture, et Stéphane Breton, délégué régional Île-de-France du registre des ostéopathes de France. Bonjour à tous les trois, merci d'être ici en ce lundi de Pentecôte. Mireille Bousquella, vous êtes psychologue. Quel est l'intérêt d'une réglementation dans ce domaine?
Alors, l'intérêt de la réglementation dans ce domaine, c'est qu'actuellement, la psychothérapie est très très en vogue et tout le monde aujourd'hui, enfin tous les... fait de l'écoute et si vous voulez, on a
tout le monde fait du psy, c'est ça que vous
avez
dit.
Voilà, tout le monde fait du psy, les médias, parce que c'est devenu, si vous, les médias, les magazines, il y a des magazines qui s'appellent psychologie et qui n'en ont que le titre, si vous voulez, l'usager ne sait plus s'y retrouver. Donc la loi du 9 août 2004 a été promulguée dans l'intérêt des usagers et dans l'intérêt de
en
la
gros,
protection.
Qu'est-ce qu'elle dit cette loi et dont les décrets d'application ont mis du temps à sortir d'ailleurs, ce
qui a été... Alors, les décrets d'application, oui, mettent du temps à sortir, puisqu'ils sont toujours en cours. La loi dit que sont de droit à pratiquer la psychothérapie les psychologues, les médecins, les psychanalystes et les psychothérapeutes qui sont régulièrement enregistrés sur une liste...
Et par exemple, vous qui êtes psychologue, qu'est-ce que vous avez comme formation?
Alors moi j'ai une formation universitaire de haut niveau, un DESS qui maintenant s'appelle Master Pro. C'est une formation fondamentale, universitaire, très contrôlée, avec un programme de formation.
Donc ce terme par exemple de psychologue ne peut être utilisé que par des gens comme vous qui ont fait ces études de psychologie à l'université, c'est ça?
Voilà, puisque le titre de psychologue est réglementé depuis 1985, juillet 1985. Et que si quelqu'un prend le titre de psychologue, il usurpe le titre, il est passible de...
Et psychothérapeute, est-ce que tout le monde peut dire en ayant fait un peu de psy qu'il est psychothérapeute ou pas?
Alors oui, c'est-à-dire même en n'en ayant pas fait, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, comme des décrets d'application ne sont pas passés, tout le monde peut s'intituler psychothérapeute.
Et c'est bien ça le problème pour le patient, c'est qu'il
voilà,
peut aller voir
exactement...
quelqu'un qui croit à un professionnel sans que ce soit forcément un professionnel.
Oui, absolument.
Stéphane Breton,
bonjour.
Vous êtes, j'ai dit, vous étiez délégué régional Île-de-France du registre des ostéopathes de France. Vous enseignez aussi
l'ostéopathie.
Quelle est la réglementation sur l'ostéopathie?
Depuis le 27 mars donc, de cette année, donc, les décrets d'application liés à la loi du 4 mars 2002 ont enfin été sortis, mais ne nous satisfont pas de façon...
Alors, qui est ostéopathe? Qui peut dire qu'il est ostéopathe?
Actuellement, il y a trois grands courants, en fait. Vous avez les médecins qui peuvent être ostéopathes, les kinés qui peuvent être ostéopathes, et également donc les ostéopathes exclusifs.
Ce que vous êtes, hein, voilà, vous avez fait que
moi,
des études d'ostéopathie.
Oui, tout à fait.
Des études qui sont longues, oui, c'est ça.
Six années.
Alors, la nouvelle réglementation, paradoxalement, réduit la durée de cette formation?
Tout à fait, puisque nous partions avant d'une formation de 5000 heures, moi je fais à peu près 5000 heures de formation, et actuellement les décrets prévoient une formation de 2600 heures, avec en plus l'interdiction d'enseigner à la fois l'ostéopathie viscérale et l'ostéopathie crânienne, qui pourtant ont fait leurs preuves auprès des patients en tous les cas.
Et ce qui vous ennuie aussi, c'est que finalement, si je me trompe, hein, vous allez me le dire, mais on a l'impression qu'il faut que vous ayez l'autorisation d'un médecin, enfin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prescription d'un médecin pour que vous puissiez pratiquer l'ostéopathie sur
Donc on reste, et ça c'est quand même l'avantage de ces décrets, c'est qu'on reste des praticiens de première intention. Seulement, il y a quand même une limitation des actes, notamment pour les nouveau-nés entre 0 et 6 mois, où il faut un certificat de non-contre-indication de la part du pédiatre ou du médecin, et également concernant les actes sur le rachis cervical, où il faut également ce certificat de non-contre-indication.
Et ça vous plaît pas, hein? Pourquoi?
ça nous plaît pas dans la mesure où le travail sur le bébé, des études ont été faites, notamment par l'Académie d'ostéopathie, qui prouvent qu'il n'y a aucun problème particulier, qu'il n'y a jamais eu de problème particulier sur la santé du bébé. Que moi-même, je travaille dans une maternité au sein d'une équipe pour laquelle ils ont toujours eu confiance en moi. Et je n'ai jamais ressenti une certaine défiance.
Et vous
ne voudriez
pas qu'il y ait un médecin d'abord qui dise que vous pouvez faire ça, c'est ça en gros ça.
Bah, disons qu'on n'est pas dans le même domaine, quoi. On va pas les médecins ont peur des manipulations sur le nourrisson. C'est souvent par méconnaissance du travail qui est fait sur ces nourrissons.
Et il fallait, vous êtes quand même d'accord qu'il fallait une réglementation, parce qu'il y a quand même eu quelques cas d'accidents avec des ostéopathes, de gens qui en sont ressortis mal en point.
Alors, tout à fait. Disons que le professeur de Rougemont a fait un dossier sur les manipulations, notamment du rachis cervical, à savoir qu'il n'est pas dénombré d'erreurs et de fautes par un ostéopathe exclusif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des accidents manipulatifs, mais la plupart de ces accidents manipulatifs, en fait, ont été faits par des médecins ou des kinésithérapeutes.
Mais vous étiez pour une réglementation, quand même.
Ah, tout à fait, puisque de toute façon, la loi qu'il faut, c'est qu'il faut d'une part exiger une certaine qualité d'enseignement pour pouvoir justement prodiguer des soins, et d'autre part, ce qui est primordial, c'est la sécurité du patient. En fait.
Docteur Denis Collin, on va en venir à l'acupuncture. Vous êtes responsable de l'enseignement de l'acupuncture et de la médecine chinoise à l'université de Paris 13, c'est ça, je ne me trompe pas?
Oui, tout à fait.
Tout à fait. On en est où de la réglementation de l'acupuncture en France? C'est presque le domaine, je dirais, qui a le plus avancé.
Ben, c'est-à-dire que la réglementation de l'acupuncture en France, c'est une vieille histoire, puisque nous avons commencé à demander une réglementation et une reconnaissance dans les années 80, ce qui a été obtenu par la création d'un diplôme interuniversitaire en 87, reconnu par l'Ordre des médecins comme étant une qualification qui permettait aux médecins diplômés de pouvoir se présenter sur leurs plaques, leurs ordonnances et les annuaires en tant qu'acupuncteur.
Formation qui dure combien de temps, vous l'avez?
C'est une formation de 3 ans. Après les études de médecine, qui durent elles-mêmes 8 ans. Et donc, il y a une formation complète sur l'acupuncture.
Et cette formation se fait après avoir fait médecine?
Oui, tout à fait.
C'est ça qui est important. Est-ce qu'on peut être acupuncteur si on n'est pas médecin?
Alors, les réglementations sont extrêmement claires. Ne peuvent exercer l'acupuncture que les médecins et les sages-femmes.
Et ça, c'est important pour vous?
Alors, ça, c'est la réglementation française. Maintenant, il existe au plan international européen différentes approches, puisque en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Angleterre, des non-médecins ont le droit de pratiquer l'acupuncture. Et que donc, avec les possibilités de passer d'un pays à l'autre pour les échanges professionnels, se pose un vrai problème en France de la réglementation. Donc c'est à la fois interdit et en même temps pas tout à fait interdit.
Ben c'est ça, parce qu'en fait, de fait, en France, il y a des gens qui sont acupuncteurs et qui ne sont pas médecins.
Voilà.
Donc c'est le grand paradoxe, vous me dites, oui, voilà, oui. Mais c'est le grand paradoxe. C'est une réglementation qui paraît très claire quand vous l'expliquez.
Exactement.
Et dans les faits, c'est pas clair du tout, finalement.
Tout à fait. Jusqu'il y a quelques années, tous les non-médecins qui étaient dénoncés avaient des contraventions, saisies de leur matériel, interdiction d'exercer, du fait d'un exercice illégal de la médecine. Mais depuis plusieurs années maintenant, il n'y a plus de poursuites envers des non-médecins, parce que avec le droit européen, ces personnes ont le droit d'exercer.
Est-ce qu'il y a des risques? J'avais envie de dire, on comprend bien sur les psychothérapies et sur l'ostéopathie, il y a de vrais risques pour le patient s'il tombe sur un mauvais qui n'a pas été bien formé. J'aurais peut-être l'impression ou tendance à penser que sur l'acupuncture, finalement, il y a moins de risques. Est-ce que c'est d'abord faux?
Je pense que c'est totalement faux, vous m'excuserez.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
Je pense que tout acte médical qui intéresse une relation entre un médecin et un patient, médecin au sens large, entre un praticien et un patient, implique de la part du praticien un minimum de connaissances, parce que le patient a le droit de bénéficier du maximum de chances pour obtenir la guérison qu'il vient demander ou l'aide qu'il vient demander au praticien. Donc pour cela, si l'on pratique un acte médical qui a une efficacité, s'il est mal pratiqué ou pratiqué par quelqu'un d'incompétent, eh bien il peut y avoir des incidents, des accidents.
Priorité Santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, nous parlons de la réglementation de différentes disciplines comme la psychothérapie, l'ostéopathie et l'acupuncture. Et docteur Denis Collin, vous étiez en train de me dire que vous avez envie de parler de la question du remboursement par la Sécurité sociale. Hein, c'est ça, je pense, dont vous voulez parler, qui est un vrai problème parce qu'en fait, c'est lié à la reconnaissance de la pratique, si c'est remboursé ou pas, en tout cas dans l'esprit du patient.
Il y a une vraie ambiguïté, c'est à la fois le diplôme est reconnu, les docteurs en médecine qui exercent l'acupuncture sont reconnus quand ils sont diplômés. Il existe en même temps une prise en charge par la Sécurité sociale des actes d'acupuncture. Là où l'ambiguïté est forte, c'est que cette prise en compte par les remboursements est extrêmement modeste.
Et la Sécurité sociale rembourse quand même un peu une partie.
Oui, tout à fait. L'acte d'acupuncture est un acte pris en charge dans le panier de soins d'acupuncture.
Mais mal remboursé, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Il est extrêmement mal remboursé puisque l'acte d'acupuncture qui nécessite une consultation de l'ordre d'un minimum de 35 à 40 minutes est pris en charge à hauteur de 11,54 €.
Ce qui n'est pas possible de faire.
Ce qui est totalement invivable.
Invivable. Stéphane Breton, je dirais même question pour l'ostéopathie. Une partie de la reconnaissance de l'ostéopathie passera par le remboursement par la Sécurité sociale, non ?
Alors ça, pour l'instant, je crois qu'il n'en est pas du tout question.
On n'en est pas là.
Je crois qu'il n'en est pas du tout question. Par contre, ce qui se passe, et le phénomène qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de mutuelles prennent en charge, en fait, les soins ostéopathiques. Alors, c'est difficile d'expliquer ça.
Quand vous dites beaucoup
ça.
De mutuelles, il n'y en a pas tant que ça, finalement, hein, quand on fait le tour.
Il y en a quand même à peu près une centaine de recensées, mais le problème c'est que de suivre les politiques mutuelles c'est un peu difficile, puisque une année ça rembourse, l'année d'après ça rembourse pas, ensuite c'est pas du tout. Il y a des créneaux en fait, et puis il y a différentes options à prendre en fonction des personnes.
Donc vous dites en fait sur l'ostéopathie, on n'en est pas encore là, on n'est pas dans cette bataille-là, vous êtes moins avancé que sur l'acupuncture.
Non, pour l'instant c'est pas du tout notre cheval de bataille.
Ouais, votre cheval de bataille c'est quoi ?
C'est d'une part la formation, et d'autre part travailler sur cette limitation des actes qui pour nous paraît complètement.
Et vous avez l'impression que vous allez obtenir gain de cause, ou là vous êtes en fait finalement dans une bataille avec les médecins ostéopathes? Vous n'êtes pas médecin, et en fait en gros c'est un peu une bataille entre les deux, je me trompe?
Oui et non, disons que chacun essaie de se battre pour sa propre paroisse en fait. Maintenant je pense qu'il peut y avoir un travail également de conciliation qui doit pouvoir se faire, donc on espère qu'avec le nouveau gouvernement et donc avec Madame Bachelot qui est ministre de la Santé, il va pouvoir y avoir un travail de fait et un travail qui corresponde à ce qui se passe sur le terrain et non pas ce qui se passe dans les bureaux, en fait.
Le dialogue est ouvert, en tout cas.
Tout à fait, oui.
Est-ce qu'il y a des pays d'Europe qui ont plus avancé que nous sur l'ostéopathie ?
L'Angleterre, où depuis 1993, la profession est entièrement reconnue et a ses propres structures de référence. La Belgique également, hein, qui depuis, il me semble, c'est 2002, a reconnu entièrement la profession.
Mireille Bousquet-là, en ce qui concerne la psychothérapie, vous demandez quoi ? On a compris, hein, les décrets d'application ne sont toujours pas sortis, donc
oui,
peut-être que votre première demande, elle est là, non ?
Oui, mais je n'ai pas eu le temps. C'est-à-dire que le texte de loi, déjà, est mal fait. Donc, l'usager n'est pas protégé. Donc,
il est mal fait pourquoi, en deux mots ?
Il est mal fait parce qu'il est contradictoire. Il permet à tout le monde, finalement, de pratiquer la psychothérapie. Donc, le décret est mal fait. La loi est mal faite. Donc, on espère, on se retourne vers les décrets d'application, où on espère une bonne rédaction. Et le décret qui est en cours est aussi très mal fait, puisque il prévoit une formation ultra minimaliste des futurs psychothérapeutes, quelque chose d'absolument ridicule, qui est de 4 mois de formation et en psychopathologie et de 5 mois de stage fractionnable, c'est-à-dire qu'ils ne seront même pas obligés de les faire. Donc nous, actuellement, effectivement, notre cheval de bataille, alors qu'est-ce que ça produit ? Ça produit une discrimination de la profession de psychologue, et ça produit une rupture d'égalité de traitement. C'est-à-dire qu'on va mettre à un même niveau d'égalité des psychologues qui sont hautement formés et puis des personnes, des gens qui vont continuer à se former à un bas niveau. Donc nous, ce qu'on demande actuellement, c'est que toute discrimination à l'encontre des gens qui sont très bien formés, je veux dire, il y a 5000 à 6000 étudiants qui se produisent sur le marché tous les ans. Ils sont au chômage, c'est une situation qui est complètement ridicule. Et puis,
ce que vous dites aussi, hein, c'est que ce qui est intéressant dans la formation universitaire, c'est que cette formation, finalement, elle touche un peu à tout ce qui se fait dans le domaine de psy et pas simplement à une méthode. Je me trompe,
voilà,
si je dis
ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les psychologues sont les spécialistes même de la dynamique psychique, du champ psychique. Ils étudient 5 ans que pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va inventer autre chose, alors nous, ce qu'on préconise, c'est que les psychologues, alors les psychiatres, bien sûr que les psychiatres sont aussi, mais je ne vais pas parler des
médecins.
Psychiatres.
Ils sont médecins.
Je ne vais pas parler des psychiatres puisque je représente les psychologues. Donc, les psychologues sont les spécialistes même de la vie psychique, et la psychothérapie est une spécialisation du psychologue. C'est-à-dire que ça vient après une formation de base généraliste, qui permet effectivement de faire un diagnostic et d'aller dans le renforcement de la protection de l'usager.
Mireille Bousquet, vous l'avez dit, la loi elle est sortie en 2004. Il faut plus de 3 ans pour que des décrets d'application ne soient toujours pas sortis. Pourquoi c'est si compliqué?
Parce qu'il y a une énorme polémique.
Et puis il y a une bataille entre plusieurs professions.
Il y a une bataille. Non, il y a surtout une bataille des psychologues. Et si vous voulez, l'année dernière, il y a eu un an de concertation avec le ministère de la Santé. Les psychologues, les organisations de psychologues étaient extrêmement présente, et nous-mêmes nous avons énormément écrit, nous avons énormément bataillé pour que ces décrets ne passent pas, puisque nous exigeons un haut niveau de qualification pour pratiquer la psychothérapie. Ce sont les recommandations européennes. Hein, les recommandations européennes en Allemagne, en Italie. En Italie, la psychothérapie est décernée aux psychiatres, aux psychologues, 4 années de spécialisation après. Donc nous, en France, on est même très, très, très en retard. Et ce sont les psychologues libéraux qui ont tiré la sonnette d'alarme.
Il y a des pays qui sont plus avancés que nous.
Bien sûr. Hein, en particulier, l'Allemagne, l'Italie est plus avancée que nous. Nous, on est dans une situation absolument régressive. Et les psychologues libéraux, parce que les cabinets libéraux se développent de plus en plus, parce que la psychothérapie se pratique en libéral, vous voyez. Donc, il y a une concurrence illégale, déloyale, et nous ce qu'on demande...
Il y a un risque pour le patient de tomber sur des charlatans.
Mais bien sûr, il y a un risque qui est énorme. Et nous demandons pour plus de contrôle la création d'un ordre des psychologues qui, comme ça se passe bien sûr au Québec, encadrera également la psychothérapie.
Docteur de Nicolas, vous êtes le seul médecin autour de cette table, donc avant que je vais poser la question. On a un peu l'impression qu'en France, sur toutes ces pratiques qui ne sont pas issues de la médecine directement, pas de médecins, on est vraiment en retard sur une reconnaissance. On a l'impression que la France a eu plus de mal que les autres pays à admettre qu'il y avait des non-médecins qui pouvaient pratiquer...
Tout à fait. Les réticences des médecins étant quelquefois assez incompréhensibles. Par contre, on a ce dont on n'a pas parlé en ce qui concerne l'acupuncture, c'est que il y a eu un arrêté qui est passé dans le journal officiel il y a un mois, qui a donné à l'acupuncture un statut de diplôme d'État sous la forme d'une capacité de médecine en acupuncture, au même titre que la capacité de médecine d'urgence, que l'allergologie, etc. Et donc il y a en tout et pour tout 15 capacités, dont la dernière.
Et ça pour vous c'est une grande avancée, c'est ça ce que vous
dites ? Eh bien c'est une première mondiale qui a été soulignée d'ailleurs par l'ambassadeur de Chine en France, qui a indiqué que c'était effectivement un moment historique de la reconnaissance de l'acupuncture et de la médecine chinoise dans le monde occidental.
Et donc c'est pour vous très important.
Absolument.
Un dernier mot.
Et donc sur les réticences médicales, elles viennent essentiellement de la difficulté à présenter des preuves scientifiques. Et ce qui nous a permis d'obtenir ce diplôme de capacité, c'est que nous avons constitué avec l'Université Paris 13 un dossier sur les recherches, les essais contrôlés randomisés cliniques sur l'acupuncture qui ont mis en évidence son efficacité et des fondements scientifiques certains.
C'est important. Docteur de Nicolas, Stéphane Breton et Mireille Bousquet, merci. Au revoir à tous et à demain.
Vous souhaitez réécouter Priorité Santé ? Rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.